Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir une compositrice dont on a dit d'elle que sa musique serait volontiers celle d'un Debussy d'aujourd'hui. Bonsoir Françoise Chauveau.
Bonsoir.
Je suis vraiment très heureux de vous accueillir.
Moi aussi, merci.
Et pour commencer, quoi de mieux que d'écouter votre musique pour faire un petit peu connaissance avec vous?
D'accord.
C'était le presto de la symphonie Indigo de Françoise Chauveau, mon invitée de ce soir. Alors Françoise, vous avez souhaité qu'on commence par cette pièce précisément, alors pourquoi ?
Alors c'est l'opus 7, C'est la première symphonie, j'en ai écrit plusieurs depuis. Et toutes les symphonies ont un nom de couleur, oui. Symphonie indigo, symphonie blanche. Et cette symphonie, je l'ai écrite lors de mon retour fin de mes études à Juilliard School. Je suis originaire du Nord, mais je suis allée m'installer toujours dans le Nord, près de la mer, dans les Flandres orientales, dans une petite fermette. Et j'adore la nature, c'est vraiment là où je vis toujours, c'est en pleine nature, que ce soit aux États-Unis, dans le Nord, n'importe où. Et cette symphonie est une... je suis revenue des États-Unis et toutes les compositions que j'avais faites avant, je les ai mises à la poubelle. Et j'ai dit, à partir de là, je garde mes partitions.
D'accord.
Et vous voyez, c'est une sorte de couleur dans le Nord, surtout du côté dans le Nord, dans les Flandres orientales. Les lumières sont très particulières. Le matin, elles sont très claires. On a beaucoup de nuages, évidemment. La pluie arrive très vite. Mais les couleurs sont particulières. D'ailleurs, il y a beaucoup de peintres et de sculpteurs et de peintres parce que il y a le septentrion qui passe par là et les couleurs sont admirables. Alors, cette symphonie, c'est un peu aussi mes impressions dans cette petite fermette en pleine automne où il faisait un temps vraiment un temps de cochon, mais c'était beau à voir la terre retourner, la terre très grasse. Voilà, toutes ces couleurs passent dans cette symphonie.
Et alors, indigo, c'est un lien avec la musique, comme un peu chez Messiaen, ou pas du tout?
Alors, indigo, c'est... Toutes mes symphonies ont un nom de couleur. Mon père était peintre. Et j'ai toujours vécu auprès de peintres, de sculpteurs dans ce milieu-là. Et il y avait un peintre à côté de chez moi, dans la petite fermette à 500 mètres, qui s'appelle Arthur Vanek, qui est un grand peintre de l'école de Roubaix. Il est décédé depuis quelques années. Et nous étions amis. Et cette symphonie Indigo, et c'est sur une peinture aussi.
D'accord. Alors, vous êtes originaire du nord de la France, vous nous l'avez dit, et vous avez fait vos études au conservatoire de Lille.
Oui.
Avant d'intégrer l'école normale de musique de Paris.
Oui.
Et puis ensuite, ce seront quelques années aux États-Unis. Alors, d'abord à l'Institut Peabody de Baltimore, que je ne connais pas particulièrement. Mais après, vous êtes allé à la Juilliard School de New York. Hein.
Oui.
Alors, autant le parcours de vos études en France est logique, j'allais dire, autant c'est intéressant de savoir pourquoi vous êtes allé vous promener du côté des États-Unis, qui vous y avez rencontré, pourquoi vous y êtes allé, qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'enseignement entre ce que vous avez vécu là-bas et ce que vous aviez vécu avant en France ?
Très bonne question.
Merci.
Alors, tout d'abord, j'ai commencé la musique très tard. Vers 14 ans, je vais passer tous les détails. Donc, on m'a donné la possibilité de rentrer dans la classe d'orgue avec Jeanne Joulin. Mais moi, je voulais faire du piano. Et j'ai fait du piano. Je rentrais au cours moyen 6 mois après parce que j'ai eu la chance, le directeur qui était Robert Lannoy, Grand Prix de Rome, un ami de Dutilleux, a senti que j'étais vraiment...
Qu'il y avait quelque chose à faire avec vous.
Je sais pas, mais j'ai été très têtue et passionnée par la musique. Dès que j'ai commencé la musique, il n'y avait plus que ça qui comptait. Sa femme était une grande pianiste. Elle avait fait pas mal de créations à Paris. Elle était déjà très, très malade. Elle m'a pris sous sa coupe. Au bout de 6 mois, je suis rentrée à la classe de piano. En 3 ans, j'ai eu mon prix régional. Et cette femme incroyable, Lola Delvard, à qui je dois tout, avait déjà un cancer du sein et elle est décédée. C'est moi qui avais été la conduire à l'hôpital. Robert Lannoy et sa femme étaient des parents spirituels pour moi.
D'accord.
J'allais chez elle tous les week-ends, je pleurais en sortant à chaque coup. Il fallait que je m'accroche, voilà. Mais je savais qu'elle avait... qu'elle avait raison. Donc, quand elle est décédée, mes parents n'étant pas dans le milieu de la musique, j'ai cherché où je pouvais apprendre un peu plus. Et j'étais à l'école normale où j'ai passé ma licence, mais je n'étais pas du tout heureuse à l'école normale parce que chez moi, il y avait une grande ouverture d'esprit. Je vivais dans un milieu très culturel, peinture, chorégraphe, musique, tout. Et il y avait toutes sortes de gens sympathiques qui venaient à la maison, tous plus, je dirais pas bizarre, mais avec beaucoup d'imagination. Et je me suis retrouvée à l'école normale avec... j'ai pas retrouvé ce milieu que j'avais dans ma famille. Donc après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai passé un concours au ministère des Affaires culturelles. J'ai une bourse pour aller soit aux États-Unis, soit à Moscou. Il fallait poser deux.
D'accord.
On m'a dit, on vous donne une bourse pour les États-Unis. Si vous êtes reçu, on vous donne la bourse. Alors, j'ai passé les examens des trois, Manhattan, Manassé et Juilliard. J'ai eu les trois. Alors, évidemment, j'ai choisi Juilliard.
Ben oui. Et avant, c'était Peabody?
Et avant, je suis allée à Peabody et j'ai travaillé avec Léon Fleischer.
Ah oui.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'enseignement là-bas?
Bon, Léon Fleischer, c'est... Léon Fleischer,
ben oui.
C'est un... incommensurable. Et après, là-bas, c'est surtout aussi... Ah bon, alors je voulais aller en Russie, mais finalement, à Juilliard, j'étais avec un professeur russe. Alors j'étais
La quadrature
contente.
Du cercle.
Oui, mais ce que j'ai aimé, c'est l'ouverture d'esprit que j'ai retrouvée. Mmh. Et aussi l'esprit de travail que l'on a dans le Nord. Travailler, aller à la sueur de... Gagner quand on fait des efforts, on vous respecte et tout ça. Et là-bas, j'ai trouvé un grand enthousiasme pour le travail parce que les gens sont à votre écoute. Par exemple, à New York, tous les 15 jours, avec un groupe d'étudiants, on se faisait une partie, comme on appelle ça, là, les copains, on boit un bon coup, on fait un bon repas. Et avant, on jouait tous nos morceaux que l'on devait préparer, les uns devant les autres, et on se critiquait gentiment. Ça, c'était,
oui, une,
c'était
équipe, quoi.
Une équipe. Et je ne trouvais pas ça à Paris du tout.
D'accord. On va écouter un petit peu de votre musique à nouveau avec un extrait du concerto pour violon numéro 2.
Thank you.
C'était le premier mouvement du deuxième concerto pour violon de Françoise Chauveau.
Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Alors Françoise Chauveau, vous me disiez que ce concerto, c'était un concerto diabolique.
Dit diabolique. Oui, son nom, c'est le concerto diabolique. Alors je vous explique l'histoire. J'ai fait quelques tournées avec le Quatuor de Vilnius. En tant que pianiste, en jouant mon quintet, et ils ont aussi enregistré le quintet avec piano et l'ensemble de mes quatuors à cordes. Et j'avais rencontré Vilelmas Čepinskis, qui joue là, un violoniste lituanien remarquable. Et il m'avait demandé, j'aimerais bien que vous m'écriviez un concerto, mais très difficile, que seul je puisse jouer. Mais je me suis dit, c'est complètement stupide. Moi, j'aime bien écrire des choses qui ont un sens au point de vue que l'on ressente des choses et tout.
Oui.
Bon, je vais quand même... je peux y aller parce qu'il joue vraiment d'une façon magnifique. Et on l'entend, là, c'était la première...
Oui. Et je vous interromps, comment on fait pour écrire des choses difficiles au violon?
Non, mais il y a toujours des lignes mélodiques, mais là je pouvais...
Non, mais pour la technique, vous connaissez la technique du violon?
Oui, pour tous les instruments, il faut voir. Et après, je vois avec les solistes aussi, puis je leur pose des tas de questions. Bon, lui, c'était pas que... Est-ce que ça va ou que... Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire comme technique? Non, lui, aucun problème, il fait tout.
Il faisait tout. Bon, c'est formidable.
Alors, j'ai écrit ce concerto. Après, il est venu chez moi pour qu'on le travaille ensemble. Et je me suis dit, il ne va jamais pouvoir jouer ça. Donc, pas de problème.
Et voilà. Il l'a joué.
Eh oui.
Alors, donc, vous disiez, vous avez une carrière de concertiste, et il y a même un critique musical américain qui a dit de vous, suite à un concert que vous aviez donné auquel il avait assisté, l'émotion chez Françoise Chauveau, c'est un feu intense, c'est un bouquet d'émotions qui est offert, un feu volontairement dévorant. Alors, en tant que pianiste, vous avez dû arpenter la planète, je suppose?
Oui.
Vous avez fait ça pendant combien de temps?
Oh, pas mal de temps, jusqu'à, je dirais... Il y a une petite dizaine d'années.
D'accord. Et vous êtes même venu à Nancy, dans le cadre des Nancy Phonies,
oui,
de mon ami
Leclerc. Oui. J'adore venir dans ce festival, un magnifique festival. J'y suis venue en tant que pianiste et compositrice aussi.
D'accord, bien. Alors, vous êtes, semble-t-il, une familière de la musique française de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette musique et comment vous la définiriez?
Alors, comment cela s'est-il passé? Mon père écoutait toujours, écoutait 80% de musique pour piano et orchestrale, instrumentale, de la musique de cette époque. Donc mes oreilles étaient habituées à cette musique-là. Et j'avais un frère qui habitait au Brésil. Et j'aime bien découvrir des musiques qui ne sont pas, que l'on ne trouve pas dans les magasins. Et j'ai découvert la musique de Villa-Lobos. J'allais répéter au conservatoire de Rio en allant passer des vacances chez mon frère. Et j'ai enregistré deux CD de musique de Villa-Lobos. Et à la suite de cela, à Paris, les éditions Le Duc et puis Madeleine Millot. Oui. On en revient au Brésil, m'ont demandé d'enregistrer l'intégrale des œuvres de Darius Milhaud. Mmh. Et toute cette période, le groupe des cinq, je jouais beaucoup de programmes avec toute cette musique. Et alors là, c'était vraiment une boucle qui se ferme avec Darius Milhaud, puisqu'il avait été au Brésil attaché à l'ambassade de France pour la culture.
Eh bien écoutez, on va écouter un petit peu de cette musique de Darius Milhaud sous vos doigts, Françoise Chauveau. Deux extraits du deuxième livre, Le Printemps, doucement et vivement. C'était deux courtes pièces de Darius Milhaud, interprétées par mon invité de ce soir, Françoise Chauveau, qui est également compositrice, et on va maintenant s'intéresser à cet aspect de votre personnalité, si vous le voulez bien. Alors, comment vous est venu ce goût pour la composition ?
Je l'avais dès le départ, parce que, comme je vous disais au début de cette émission, j'ai vécu dans un monde où l'imagination était présente tout le temps, puisque mon père était peintre. Mmh. Et quand j'étais petite, je voulais être peintre. Bon, évidemment, alors mon père me disait, pour tel jour, tu me fais ceci, cela. Et puis j'avais beaucoup de mal avec les angles, tout ça, les perspectives. Ah oui, j'imagine. Oh là là là. Puis un jour, il m'a vraiment bien critiqué. Je me dis, je n'y arriverai jamais. Et
Passons à autre chose.
Je voulais faire du piano et être voilà. compositeur. Alors, un jour, ils ont acheté un piano droit chez Emmaüs et ils l'ont mis dans le couloir. Et alors, c'était parti, n'en pouvait plus. Ils avaient fait une grande erreur pour avoir le calme ce jour-là.
Alors, vous avez eu des professeurs pour la composition ou simplement des influences d'autres compositeurs?
Non, je dirais que je voulais peindre et finalement, j'ai peint un graphisme. Ce sont des couleurs, j'ai un peu mes sauces et tout ça, et je l'applique sur mes compositions. J'ai eu des classes d'écriture avec Jeanne Joulin à Lille, j'étais à la classe d'orgue, et après, non.
Vous êtes façonnée toute seule au niveau composition. Bon, il y a eu des influences quand même.
Oui, les influences, toutes sortes de musique, la musique américaine, la musique classique, surtout Bach. Mmh, mmh.
Et puis votre prédilection pour la fin 19e, début 20e aussi.
Oui, bien sûr. Hein? Oui. Époque charnière.
C'est facile pour une compositrice d'être jouée actuellement?
Le E en dit long.
Bon, on peut passer à une autre question si vous voulez.
Non, j'ai eu la chance de rencontrer de grands artistes qui m'ont passé des commandes et
ils ont ouvert des portes qui nous ont permis de...
Oui, surtout à l'étranger. En France, j'ai écrit pour Gérard Poulet, Michel Michalakakos, Dominique de Villancourt... des ensembles aussi. Et puis là, comme je ne peux plus jouer de piano depuis quelques années, puisque j'ai une maladie dégénérative à la main droite, je dis youpi, maintenant je peux me plonger à fond dans la composition, donc je repars de plus belle.
Alors, le processus de composition d'une œuvre, c'est quoi?
Le processus, c'est l'idée. L'idée, par exemple, depuis une quinzaine d'années, je travaille avec des musées. Bon, c'est devenu naturellement, finalement. Et c'est là où j'ai trouvé mon écriture pour piano. Parce qu'étant pianiste, on a des réflexes de jouer tel répertoire. Et là, je n'avais pas trouvé mon écriture. Et je l'ai trouvée quand j'ai commencé à écrire pour un musée d'art contemporain, le LAM à Dunkerque, sur la période Cobra. Et j'écris par rapport aux sculptures. Alors, je travaille avec la personne qui est commissaire d'exposition. Et là, j'ai trouvé mes lignes directrices, le graphisme et les couleurs. C'est venu tout d'un coup. Et j'ai continué avec d'autres musées et les deux derniers, ça s'appelle Vision Sonore.
Oui.
J'ai fait deux visions sonores avec le musée La Piscine à Roubaix, le fameux musée. Une pour les peintres de Roubaix, pour quand ils ont agrandi le musée, pour faire une aile dédiée aux peintres de Roubaix, j'en ai connu beaucoup, dont Arthur Van Eyck, je parlais tout à l'heure.
Oui.
Et après, sur l'exposition Eugène Dedaigne, qui va revenir, un des plus grands sculpteurs de la fin de ce siècle, du siècle dernier, que j'ai connu. J'ai même habité chez lui en 2018, un an et demi, sa maison. Il était décédé depuis quelques années. Et là, je suis repartie de plus belle dans la composition par rapport aux sculptures. Et là, le quatrième vision sonore va sortir. C'est sur les peintures de Gustave Caillebotte. C'est une commande de la villa, la propriété Caillebotte, ailleurs.
Alors, quand on compose, est-ce qu'on sait quand une pièce est terminée? Ou alors on a toujours envie de rajouter quelque chose ou d'enlever?
Non, moi, ça sera plutôt l'inverse. Je me dis, ça s'arrête comme ça. Je ne me pose pas de questions. Ça doit s'arrêter là.
Vous avez tout dit. Vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là.
Certainement pas, mais c'est un peu, c'est compliqué la composition. Ah
ben, oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que justement...
C'est le reflet de son âme, finalement, de ce que l'on vit, de, des voyages. J'ai une écriture assez tellurique aussi. Parfois, j'écris, par exemple, dans les Flandres, j'ai fait un tas de préludes sur des arbres, sur les zoyas, les paysages. Et chez Dodaigne, le sculpteur Eugène Dodaigne, j'ai écrit évidemment sur ses sculptures pour le musée La Piscine. Mais quand j'étais chez lui, j'ai écrit... sur les arbres de son jardin, il y a le chêne d'Amérique, le peuplier. Ce sont des pièces, des petits préludes assez courts avec l'âme de cet arbre. Il y a le sol pleureur par tempête, il y a le coucher de soleil. Voilà.
Et ça, ça inspire uniquement votre écriture pianistique, pas quand vous faites de l'orchestre, par exemple, ou de la musique de chambre.
Ah si.
Si aussi.
Si, si.
Ouais. Et vous avez eu différentes périodes de création ou bien votre écriture évolue naturellement au fil des années ou des pièces ?
Alors, j'ai déménagé dans les Vosges.
C'est aussi pour ça que vous êtes là.
Et alors, mon Dieu, il y avait toutes ces partitions que j'ai dû ranger. 300 opus, je me dis mince.
300 opus, ça veut dire 300 pièces écrites.
Oui, et ce sont souvent des grosses pièces. Oui, par exemple, un numéro d'opus, ça peut être 24 préludes. Mm-hmm. Et je me dis mince, comment j'ai fait ça? C'est curieux, vraiment.
On va écouter une curiosité, le quintet avec harpe.
Thank you.
C'était un extrait du quintet pour harpe et quatuor à cordes de Françoise Chauveau, intitulé « Mignonne, allons voir si la rose ». Alors, Ronsard vous a inspiré également pour d'autres pièces ?
Oui, pour ces pièces-là, en fait, j'aime beaucoup travailler aussi, surtout pour la voix, sur des poèmes que j'aime bien, Victor Hugo.
Alors, vous aviez dit que vous aviez 300 opus à votre catalogue, 303 exactement, si je me souviens bien. Et alors, c'est pour tous les instruments ?
Oui, tous les instruments, par rapport aux commandes, par rapport aux demandes de musiciens. C'est une aventure à chaque fois.
Une aventure, une recherche ?
Une recherche, un dépassement aussi. Par exemple, j'avais fait une résidence dans le Nord au Conservatoire de Tourcoing. On m'avait demandé dans le cahier des charges d'écrire beaucoup de pièces pour piano, d'autres choses. Et puis d'écrire une pièce pour orchestre de jazz. Alors là... J'ai dit oui, mais à l'intérieur, ça fait gloup. Je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire ça? Malgré que j'adore le jazz, j'écoute du jazz tous les soirs sur France Musique.
Mais alors là, il y en a sur RCN aussi du jazz.
Bon, alors je vais m'y mettre. Hein. Je demandais qu'on me règle. Mais bon. Voilà, c'était parti pour le jazz et je travaille toujours avec ces gens-là depuis 8 ans maintenant.
Ah, c'est chouette, oui. Et vous écoutez quoi d'autre ?
J'écoute toutes les musiques. Bon, évidemment, beaucoup de musiques classiques, contemporaines aussi, même des musiques qui ne me plaisent pas finalement, mais pour savoir ce qui existe.
Et ouais, être au courant, quoi.
Oui, et puis être respecté aussi, ces gens-là. Même si je ne suis pas en phase, il faut être ouvert d'esprit.
Oui, tout à fait. J'ai entendu dire que vous composiez quand vous conduisiez.
Oui, j'ai mes petits carnets. Mais...
Alors racontez-nous comment ça se passe. Ça m'intrigue. Ça devrait intriguer la maréchaussée aussi, peut-être.
Hein. Non, parce que je fais attention quand même.
Faites ça sur les petites routes uniquement.
sur les doubles voies, les petites routes. Mais je m'arrête et je me dis faut que cette. Parfois, j'ai quand même écrit, mais sans. En prenant ma main droite, sur le siège de droite, j'ai le carnet en question, déjà avec une page blanche, le stylo.
Tout est prêt, au cas où.
Et puis, je continue à conduire, j'écris, mais sans regarder mon carnet. Après, je n'arrive pas à le relire la plupart du temps, donc maintenant, je m'arrête. Et je dis, il faut que je garde cette idée. Mais c'est lors d'une commande, par exemple, on me demande d'écrire... pour orchestre ou bien une symphonie. J'aime bien aussi écrire à partir du patrimoine, si c'est pour un lieu particulier qui habitait là, peut-être un peintre, peut-être, ou simplement sur la beauté du lieu.
Et les petites choses que vous écrivez en voiture, là, ça rentre dans un dossier, puis vous réutilisez ces idées-là pour des pièces, ou alors...
Non, c'est uniquement pour cette composition.
D'accord.
Une fois que je suis sûre que je vais devoir, avec un immense plaisir, mais redoutable quand même, d'écrire une pièce, le processus de composition se met à toute allure dans mon cerveau, et après, il faut que j'organise toutes ces idées.
Ouais.
D'abord, je me suis entretenue avec la personne qui m'a passé cette commande, si c'est un orchestre ou des musiciens, un festival. Une fois que j'ai l'idée, je creuse l'idée et je fais un plan. Il faut d'abord faire un plan. Et après, j'ai toutes ces idées dans la tête comme un kaléidoscope.
Oui.
Et ça se met en route comme ça, les choses se mettent les unes dans les autres. Et c'est comme ça que je construis, d'abord dans ma tête, et après j'écris.
Très bien. Bon, on va écouter un extrait de votre quintette avec piano. Thank you. C'était le troisième mouvement du deuxième quintet pour piano de Françoise Chauveau, un mouvement intitulé Amoureusement, Françoise.
Oui, alors c'est, j'en reviens en concerto pour violon de tout à l'heure que l'on a écouté, qui avait été créé à la Philharmonie de Vilnius. Et quand j'étais là-bas pour les répétitions, j'ai écrit ce quintet que j'ai joué après en France, en Lituanie, avec le quatuor de Vilnius, que j'apprécie tout particulièrement. Et c'est en visitant le musée de Kaunas, la capitale de la Lituanie, que j'ai écrit ce quintet qui est assez effrayant dans le premier et le dernier mouvement. Et ce mouvement-là est venu, c'est marqué amoureusement, mais c'est dans le sens de la paix pour les peuples, ce que l'on pourrait souligner.
On peut souhaiter ce en ce moment, oui, tout à fait.
Oui, oui.
Alors pour terminer, on va parler d'avenir. Quelles sont les choses que vous avez en cours et quels sont les projets ?
Alors,
si on a le droit de savoir. Hein.
Oui, bien sûr. là, je vais rentrer en période d'écriture dans 10 jours.
Ah bon, ça se passe comme ça. Vous avez décidé que dans 10 jours, vous commencez à écrire quelque chose.
Oui, parce que c'est...
Et vous ne bougez plus pendant combien de temps?
C'est en ébullition dans mon cerveau. Ah, oui. Je pense pendant 3 mois.
Ok.
Mais j'ai pas mal de choses à écrire. Alors, je vais écrire un concerto pour piano et orchestre d'harmonie avec l'orchestre d'harmonie de Lille, FIV. Il y a la plupart des musiciens qui sont issus de l'orchestre de Lille. C'est un très très bon orchestre. Mmh. Et le chef d'orchestre est génial aussi, Jérémy. Et ça va être un concerto qui s'appellera Northern Concerto. Et je vais décrire le paysage des pays nordiques. Mmh. Par le froid, la glace,
d'accord.
Et tout.
Bah, les Lillois seront bien pour jouer ça.
Oh non. À Lille, il a fait très chaud cet été.
D'accord. Bon, bah, écoutez, je propose qu'on termine cette émission d'abord en vous remerciant, parce que c'était un moment très agréable pour moi, j'espère pour les auditeurs aussi.
Vous ne pouvez pas rajouter un petit peu.
Mais bien sûr, allez-y, je vous en prie.
J'ai créé un concerto pour le trio à cordes Goldberg, qui est un magnifique trio à cordes. C'est un concerto pour orchestre à cordes et trio à cordes en soliste qui s'appelle Renaissance.
Ah oui, ça c'est pas banal comme formation.
Non, c'était très compliqué.
Ah, pour faire sonner tout ça, oui. C'est
un challenge et puis d'autres choses aussi. Il y a d'autres... je vais certainement partir plusieurs mois aux États-Unis pour écrire sur des sculptures dans un parc de sculptures.
Et puis, vous avez fait aussi des choses pour le Quatuor Stanislas.
Voilà, le 6 avril.
Donc, une pièce créée le 6 avril prochain.
Ah oui, je suis vraiment contente. Ce sera un quintet avec hautbois.
Quintet avec hautbois. D'accord. Eh bien, écoutez, pour terminer, on va écouter un extrait d'une autre œuvre que vous avez enregistrée, enfin, qui a été enregistrée avec le Quatuor Stanislas. C'est un extrait des Lumières.
Ah, hein? Oui.
Et on va terminer avec Voltaire. Attendez, oui, oui.
Oui, alors, le quintet avec hautbois, c'est sur le comte Stanislas.
D'accord. Très voilà. Bien. Bien connu chez nous. Mais maintenant, c'est Voltaire. C'était Voltaire, extrait des Lumières de Françoise Chauveau. Quelques annonces pour terminer cette émission. Le jeudi 30, donc c'est tout bientôt, à l'auditorium du Conservatoire, à 18h30, il y a une conférence qui sera donnée par le professeur Jean-Claude Marchal, qui a pour titre « Cerveau, musique et plaisir », tout un programme, avec des interventions au piano de Geoffrey Nau. Et puis l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine se produira à Salle Poirel le jeudi 30 novembre, toujours à 19h, le vendredi 1er décembre à 18h et le samedi 2 à 11h dans un programme intitulé « Le voyage sans fin ». C'est dans le cadre des festivités de la fête de Saint-Nicolas à Nancy. Et puis le dimanche 3 décembre, Salle Poirel à 17h, les solistes, le chœur et l'orchestre de Gradussan Musicam donneront quelques cantates de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Et puis ce même dimanche 3 décembre, en l'église Saint-Georges d'Essélé-Nancy, à 16h30, un concert caritatif au profit de l'association nancyenne Gamia, qui travaille au Bénin sur la prévention du diabète chez les adolescents. Ce sera un programme de musique baroque et j'aurai le plaisir d'accompagner à l'orgue Béatrice Claudegaine, mezzo-soprano, et le trompettiste Patrice Lerèche. L'entrée est libre et l'église sera chauffée. Voilà, Françoise, merci.
Merci beaucoup.
Pierre, merci pour la technique. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Tempo Classique. Bonne semaine à tous.